Et vous voir.
Ah oui, très bien. On va tous se mettre là, mais d'abord, j'ai une once, Régine, qui est psychanalyste, thérapeute familiale, maître de conférence à Paris 7. Et dans un de ses ouvrages, c'est Sortir du génocide, témoignage et survivance. Et je vous passe la parole.
Je vais laisser M. Darmon faire. Sans lui, je ne pourrais rien faire, mais je voulais remercier. Je ne pouvais pas rêver d'une introduction à mon propos aussi juste. Donc, d'abord, je remercie le. Oui, j'ai pas le micro. Je remercie l'orateur, mais je remercie aussi les organisateurs qui ont si bien pensé la synchronie et la diachronie. Bon, je vous passe un tout petit peu de. Monsieur Darmon va nous passer un peu de ce film, puis après, on va travailler.
Non. Moi, j'ai le droit de considérer mon père comme je veux le considérer. Ou plutôt comme je le considère, et non comme je veux le considérer. C'est mon droit. Tu ne peux pas m'en empêcher. Tu as ta propre vision et ça me fait de la peine.
Et chacun reste seul avec sa vision.
Oui, oui, tout à fait. Et si tu as pensé que ton œuvre, que ton film allait changer quelque chose à ça, eh bien malheureusement, c'est une erreur.
Voici l'histoire de mon père, un criminel de guerre. De ma mère, de mes frères et sœurs, de mes neveux et de mes nièces. Une histoire typiquement allemande.
Était vêtue de noir. Till était encore assis dans le traîneau. Erla a dû partir pour chercher quelque chose. En tout cas, elle nous a laissés seuls un moment. On venait de se mettre en route pour Schlüsselhof. On était encore dans le village. Et Till m'a dit, papa est mort. Il ne devait pas me le dire. Mais il n'a pas pu le garder pour lui. Et nous avons pleuré ensemble. Et quand Erla est revenue, on a sans doute pleuré tous les trois.
J'ai entendu dans la cour de l'école des élèves dire « Ton père a été pendu », quelque chose comme ça.
Ma mère m'a dit, j'étais encore toute petite, c'était en 47, fin 47. Je devais avoir 3 ans et demi. Non, 4 ans et demi. Elle ne voulait pas me dire qu'il avait été exécuté. Elle m'a raconté qu'il était tombé, ce qui convenait parfaitement à son état d'esprit, puisqu'il aurait préféré tomber au combat. Il aurait bien aimé retourner au front.
C'est la première fois que je la voyais pleurer. Elle s'est jetée sur le lit. C'était une expérience épouvantable.
De voir ta mère pleurer. Parce que tu n'arrivais pas à le concevoir. Ou bien parce que tu ignorais pourquoi elle pleurait, ou bien le savais-tu?
Si, bien sûr, mais...
Sur mes 5 frères et sœurs, 3 sont encore en vie. Hélène, la cadette, née en 1937 à Stuttgart. Barbel, née en 1935 à Stuttgart, qui ne désirait pas témoigner au départ devant la caméra. Andrea, la plus jeune, née en 1943 à Bratislava. Mmh. À une époque, la famille se réunissait régulièrement, au complet. Ma sœur Erika et mon frère Kilman étaient alors en vie. Erla, notre mère, était le centre. Je ne me serais jamais risqué à faire ce documentaire de son vivant. Et elle a vécu très longtemps. Je n'ai pas connu mon père. Dans mon enfance, je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir un père.
Dans mon enfance, j'ai bien sûr souvent rêvé qu'il revenait, que tout cela n'avait été qu'un affreux cauchemar. Un affreux cauchemar. Oui, je rêvais que tout n'était qu'un cauchemar. Puis je me réveillais, et la réalité me montrait malheureusement que ce n'était pas un mauvais rêve, que le rêve était bien réel.
Je rêvais qu'il revenait, que c'était une erreur. Il n'était pas mort, il revenait. Il était de nouveau là et j'étais transportée de joie dans mon rêve.
Eri, ta sœur et ma future épouse étaient profondément marquées. Ça l'accablait terriblement. Dès qu'on parlait de son père, elle s'effondrait en larmes. Au début, je me disais que c'était normal. Cela ne faisait que 8 ans qu'il avait disparu. Mais dans les faits, elle n'a jamais surmonté cela de sa vie.
Monsieur le procureur veut visiblement me permettre d'apporter des preuves afin que je meure dans la dignité. Si nécessaire, je fournirai ces preuves de façon déterminée. Si je prie tout de même le tribunal de m'infliger une peine plus indulgente, je le fais avec la ferme conviction de ne pas mériter la mort au nom de mes 6 enfants et de leur réputation, et surtout au nom du peuple slovaque. Ouais. J'ai profondément sondé ma conscience et je ne peux pas me déclarer coupable. Je ne peux pas me déclarer coupable. Je ne peux pas me déclarer coupable. J'ai agi sous la contrainte des circonstances dans le cadre des ordres et des instructions qui m'ont été données. J'ai parfois hésité, j'ai commis des fautes et des erreurs, mais aucun crime. Je remets en toute confiance la décision de mon sort entre vos mains. Vous ne briserez pas inutilement un cœur dont l'ardeur...
Peut parler dans ce micro-là aussi. Très bien. Alors, malheureusement, moi, je ne vais pas être dans la veine comique, alors que j'aime beaucoup raconter des histoires. Et on est d'emblée un peu dans le tragique, avec le prologue, la première partie de ce film que vous ne verrez pas en entier, parce que je vais parler aussi d'autre chose, mais que j'ai intitulé, donc, le thème « La trahison des pères ». Ce prologue montre de façon emblématique la quête d'un fils que vous avez vu, Mal Cloudin, le réalisateur, pour comprendre ce qui a fait de son père un criminel de guerre de haut niveau, puisqu'il a été pendu après la guerre. Mais pourquoi parler de trahison des pères ? Mais parce que je pense que c'est là que se joue le drame. Il est très difficile pour un enfant, de ceux qu'on nomme en anglais perpetrators, bourreaux, de voir son père comme un bourreau. Un père est rarement qualifié ainsi. Ça peut être à l'intérieur de la famille, mais comme bourreau officiel, même s'il a été condamné sans équivoque pour crime de guerre. Comme le dit Loudin, jusqu'à mes 18 ans, mon père était un héros, faisant ainsi écho au mythe familial et au récit de sa mère, que vous avez vu, qui présentait le père comme un héros trahi par Hitler, lui-même dans sa lettre, se présente aussi comme quelqu'un qui n'a fait qu'obéir aux ordres. La version victimaire et déresponsabilisante correspondait, après la guerre et pendant des années, à une doxa répandue en Allemagne, malgré la dénazification, quand les Allemands vaincus se disaient et se vivaient comme les victimes d'un Führer qui les avait abandonnés, donc d'un père qui les avait trahis. Déjà en 67, des psychanalystes, Michterlich et Mitscherlich, avaient analysé Mari et femme, ce déni, cette position, comme une défense contre la mélancolie. Mais je ne peux pas en parler plus, là. On niait ce qui s'est passé sous le Troisième Reich pour ne pas en vivre les conséquences qui sont, pour la génération adulte, pendant le nazisme, examiner son passé et admettre et se reconnaître coupable, et pour la génération d'après, celle qui nous intéresse là, affronter la vérité de figure parentale criminelle en renonçant à leur idéalisation nécessaire. Donc on constate, au niveau de la société et au niveau des familles, l'instauration d'un véritable pacte des négatifs destiné, là je vais emprunter sa très jolie formule à M. Pierron, à s'épargner le difficile de l'histoire. Il aura fallu des années pour que ça cède un peu, et il y a encore bien des zones d'ombre, comme en témoigne l'ouvrage, le dernier ouvrage du psychosociologue Harald Welter, Grand-père n'était pas nazi. Dans ce livre d'entretien, on voit comment les petits-enfants, là on est à la génération d'après, interviewés, s'attachent à défendre la figure de grands-parents bons, honnêtes, non compromis avec le nazisme, mais contraints de s'y conformer, là encore, pour survivre. Et ça, au mépris d'une logique qui leur fait reconnaître dans une même phrase que certes, grand-père faisait partie des SS, mais qu'il n'a jamais rien fait de mal et il a même sauvé des juifs. C'est possible d'ailleurs, mais enfin, quand on sait combien il fallait faire preuve de zèle pour entrer dans ce qui était considéré comme une unité d'élite, on peut s'étonner de la puissance du déni de jeunes personnes qui ont eu depuis tout loisir de s'informer, étant donné le... Donc, le pacte des négatifs qui a régné sur la société allemande, d'après-guerre, a continué d'étendre un voile opaque sur les familles. Et ce qui a instauré, évidemment, une faille dans la filiation. C'est que, à l'instar de la seconde génération, celle qui suit n'est pas exempte des loyautés d'appartenance groupale qui lui font hésiter à franchir le seuil des mensonges et des demi-vérités sur lesquels ils ont grandi. Malt Ludin, qui lui est né pendant la guerre, l'a fait très courageusement dans un film que je regrette et de ne pas vous montrer et de commenter comme un document parce qu'il a des qualités aussi cinématographiques extraordinaires. C'est pas seulement un documentaire, Ludin est un cinéaste. Je ne sais pas si dans le peu que vous avez vu, la musique, l'utilisation de la musique, des plans, c'est absolument remarquable. C'est une œuvre cinématographique que je suis obligée d'analyser là comme un document en ne lui rendant pas justice. Il n'a pas échappé à ce dilemme qui lui enjoignait, comme ses sœurs, de laisser tomber une enquête qui risquait de faire éclater la famille. Et de rester autour d'une histoire verrouillée par la figure tutélaire et terrifiante de la mère. D'ailleurs, vous avez entendu qu'il reconnaît qu'il n'aurait jamais pu faire ce film du vivant de la mère, et ajoute-t-il avec humour, parce qu'il a de l'humour, et elle a vécu longtemps. Pour lui, donc, comme beaucoup d'enfants petits ou nés après le nazisme, la vérité sur les agissements de la génération parentale ou grand-parentale est longtemps restée un mystère. Et Ludin, comme d'autres, a dû faire un long chemin en partant à la recherche de documents et de témoignages familiaux qui lui permettent de se réapproprier et de réécrire une histoire qui est à la fois éminemment privée, mais qui est aussi intimement mêlée aux convulsions de la grande histoire. Là, vous le voyez, on a plein d'images, plein de documents. Son père était donc SA et compagnon de Hitler. On voit des... C'est un notable du point de vue du nazisme. Après avoir pensé que son père était mort en héros, comme la mère l'a dit, et à la faveur d'événements sociétaux comme la bande à Bader, etc., mais aussi l'ouverture des archives. Ça commence sur des archives, vous avez vu. Il comprend combien son père était compromis dans l'entreprise nazie et le nomme alors, dit-il, un cochon de nazi. Mais là, c'est encore une révolte adolescente. Il va lui falloir faire un chemin pour trouver une idée plus exacte de sa filiation et une position plus juste et plus tenable entre l'admiration et le rejet. Et ce n'est qu'en menant lui-même son enquête et en tentant de métaboliser ses découvertes qu'il pourra parvenir à cette position de sujet en se libérant de l'assujettissement au groupe familial et au groupe national, parce que là, ça se joue, c'est comme des poupées emboîtées. Doublement affectée par l'histoire, la petite, si je puis dire, et la grande, celle avec un grand H, comme disait Georges Perec, Loudine s'attelle à son projet, soutenue en cela par sa femme, je ne sais pas si vous avez fait attention, Eva Tvarkova Zeigt, sa productrice, une tchèque de 20 ans, sa cadette, qui n'a donc aucun lien ni familial, ni appartenance nationale, ni générationnelle avec ces événements. Mais elle a quand même un sacré lien, parce que lui est né à Bratislava, puisque son père était gouverneur et envoyé spécial du Reich à Bratislava, en Tchécoslovaquie. Et c'est donc lui qui a administré la Tchécoslovaquie au nom de Hitler. Et cette femme qu'il a rencontrée est tchèque. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mais elle a le privilège de la naissance tardive, pour reprendre l'expression d'un célèbre homme politique allemand, qui lui permet de ne ressentir, n'éprouver aucun des doutes et des scrupules qui assaillent son époux au moment de plonger dans l'histoire dont il est issu. Donc ce film, c'est à la fois un documentaire familial et un documentaire sur l'intime d'une famille qui, un intime marqué au sceau du collectif et qui requiert le collectif pour s'exprimer. À l'instar de beaucoup de familles, cette famille s'est construite sur le refus de l'extérieur, porteur d'une vérité inacceptable. Et c'est vers cet extérieur que le réalisateur se tourne, représenté donc par son épouse et sa productrice, mais aussi par nous, le public, pour sortir de l'enfermement familial où il ne parvient pas à trouver la vérité qu'il recherche. Donc, c'est quelque chose vraiment d'une ouverture. Les portraits des divers protagonistes, vous les avez vus brièvement, réalisés par touche au fil de leurs échanges avec le frère, illustrent parfaitement la pluralité des attitudes psychiques face à l'héritage dont ils sont porteurs. Chacun représente un aspect différent des défenses mises en place pour se confronter à l'histoire. Si l'on se représente ces attitudes comme un gradient qui s'étend de la défense la plus rigide, le déni, la forclusion, à des défenses plus souples, comme l'intellectualisation ou la rationalisation, on peut placer chaque membre de la famille sur une telle échelle, tant il personnifie un aspect de cette défense familiale qui lui est échu en partage, sans qu'il en soit toujours conscient. Au fil des images, donc, on fait connaissance avec les frères et sœurs, sauf les deux défunts, Tillmann et Eri, dont je dois vous dire, mais il ne le dit pas dans le film, qu'elle s'est suicidée après un alcoolisme sévère. Elle s'est brûlée dans sa baignoire. Donc on voit le beau-frère. Dans la scène du début, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait d'elle, on voit Loudine qui se met en scène en train de lire cette lettre, ce testament de son père, cette lettre au juge tchèque, puisqu'il a été pendu là-bas, jugé par les partisans et par le gouvernement tchèque. Et on entend le son. Vous voyez qu'il répète plusieurs fois « Je ne peux pas me déclarer coupable ». Et c'est le ton volontairement neutre du début cède devant cette phrase, répétée 4 fois, d'abord de façon ironique, puis méprisante, et à la fin, étranglée de rage. Le fils ne peut se résoudre à prononcer cette phrase. C'est le seul testament de son père, à propos duquel il ajoutera plus tard, « Dans toutes mes recherches, j'espérais trouver quelque chose qui le disculperait. » On voit donc que pour lui, comme pour ses sœurs, le désir d'innocenter le père demeure présent jusqu'au bout, même s'il choisit d'affronter une vérité que les autres refusent. On peut mettre le passage Bratislava. Un peu de cinéma.
Schlafzimmer von Eltern und dort war noch ein Kinderzimmer.
Und dann wurde eben dieses Häuschen.
C'était une petite maison. Elle n'était pas si grande. On lui avait ajouté un étage.
Marika
était une des bonnes. Un jour qu'elle nettoyait l'escalier, elle portait un merveilleux costume slovaque. Je me souviens très bien de cette image.
La maison qui appartenait à mes parents se trouvait non loin de l'ambassade et de la maison où votre père vivait. Cette situation s'est révélée particulièrement négative pour mon père. À cause de cette proximité, mes parents et leurs enfants étaient soumis à une rigueur accrue. Le problème majeur, c'était que les Juifs avaient l'interdiction de se déplacer librement. Comme l'ambassade était gardée jour et nuit et que les mesures de sécurité dans les alentours étaient très strictes, mes parents ont indirectement souffert de la situation. À un moment, les Juifs ont été contraints de quitter Bratislava. La ville devait être débarrassée de tous les Juifs. La ville a été une des premières à être, entre guillemets, nettoyée. Et donc, toute la famille a dû quitter la ville. Et nous avons vécu une partie de la guerre dans l'est de la Slovaquie.
Au rez-de-chaussée, il y avait divers salons. Au premier étage, c'est intéressant si je décris la maison. À l'étage, il y avait la chambre des parents, avec une pièce pour s'habiller et une salle de bain. Ensuite, il y avait le bureau de Hans, le boudoir d'Erla, puis la salle de jeu des enfants, suivie de la salle à manger des enfants. Là, un escalier conduisait à nos chambres à coucher.
Nous vivions dans une étable avec les vaches et les chevaux. Je dormais, je ne connais pas le mot en allemand, là où les vaches mangent.
Dans la mangeoire.
Dans la mangeoire. Et on me couvrait de paille. Imaginez les conséquences pour un enfant de 3 ou 4 ans. Quand je suis sorti de là, je bégayais. Et j'ai bégayé jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'école, j'étais contraint de répondre par écrit sur le tableau. J'ai réussi à me soigner à force d'un très gros travail et avec l'aide de plusieurs orthophonistes.
Nous chantions fréquemment. Nous faisions aussi du théâtre. Nous jouions au cirque dans le jardin, toujours sous la direction d'Eri.
Nous étions heureux. Nous avions élevé un enfant magnifique. Toi, tu n'as pas connu ça.
J'ai beaucoup de choses à vous dire encore. Je crois que cette scène parle d'elle-même. Cette manière de mettre en parallèle l'enfance insouciante, heureuse, belle, et l'enfance de quelqu'un qui habitait là, juste à côté, du professeur Stern, pendant le même...
Et on voit comment les sœurs restituent naturellement, bon c'est un peu un piège du frère, hein, sans culpabilité, la vie insouciante et celle du témoin en face, qui nous montre le courage qu'il faut au réalisateur pour élaborer la culpabilité et la honte que sa famille refuse d'éprouver. Mais ces dilemmes ne sont pas l'apanage exclusif des enfants de nazis. On les retrouve à l'œuvre dans plein d'œuvres. Par exemple, je mentionnerai juste le dernier livre de Jean Hatzfeld, « Papa de sang », à propos de sang, où on voit comment les enfants de pères hutus se débattent avec ces mêmes questions. La question de la responsabilité des pères dans le génocide des Tutsis du Rwanda, qui est récent, hein, 1994, et... quand les paroles des parents font fonction d'autorisation ou au contraire d'interdiction, c'est le plus souvent, d'aller chercher plus avant pour connaître la vérité. À cette différence près que les pères sont vivants, qui vivent là, avec les enfants, bon, en Allemagne aussi, hein, il y a eu plein de pères vivants, là, son père est mort, mais, et que souvent, ils ont purgé des années de prison, ces pères, ce qui logiquement devrait signer une certaine mesure de culpabilité aux yeux de leurs enfants. Mais là encore, la logique familiale et filiative n'est pas la logique tout court. Et l'on voit comment les fils et filles d'eux se débattent pour élaborer une version acceptable de l'histoire familiale, dans un déni qui emprunte au désaveu sa structure bien connue, je sais bien, mais quand même. Pour ce qui est du Rwanda, il est trop tôt encore pour voir les effets, mais évidemment, personne ne sortira indemne de ces torsions d'une vérité si dérangeante qu'elle en a mené certains à la folie. Maintenant, on va passer ce travail sur Loudine. Au début, j'avais dit que je ne parlerais que de Loudine, mais vous savez comment c'est. D'abord, on donne un titre des mois avant, et puis on continue à travailler. Et je voudrais vous parler brièvement, de deux ouvrages français, cette fois-ci, deux livres, parce que les livres, la fiction, c'est important, ne sont pas vraiment des fictions, qui ont en commun de raconter comment les enfants de collaborateurs, puisque là on est en France, comment a affecté leur destin familial. Ils sont tous deux écrits après la mort du père et commencent avec la scène de la mort paternelle, comme pour indiquer au lecteur que ces livres peut-être n'auraient pas pu être écrits exactement du vivant du père. Le premier, c'est l'ouvrage de Michel Séonnet, La marque du père. Le second, d'Alexandre Jardin, ça va vous étonner, son roman Des gens très bien. Je vous lis. La marque du père, je vous lis un extrait, si elle est toute petite et bien cachée, enfin non, l'extrait je vous lirai après, a des conséquences immenses pour le devenir du fils. Enfant, cette marque le fascinait, et c'est encore sur elle que son regard s'arrêtera lorsqu'au seuil de la mort, il prendra dans ses bras le corps de son père. Cette marque indélébile, sous le bras, c'est la lettre O, d'honneur universel. Tous les soldats de la Waffen-SS avaient leur groupe sanguin tatoué sous le bras, en bleu. Et il en allait de même pour les hommes de la division Charlemagne, qui accueillit nombre de miliciens français qui se sont enrôlés pour combattre sur le front de l'Est et pour échapper au peloton d'exécution. Ce texte est un roman autobiographique. L'auteur part à la rencontre de ce père milicien et analyse comment cette filiation a façonné sa vie, ses relations et son itinéraire littéraire. Devant le corps du père mort, l'adulte se souvient du silence total, de la dissimulation qui entourait l'histoire du père, de l'interdiction de questionner. Il revit la scène apparemment anodine où, couché dans l'herbe avec son père, ils jouent tous les deux à chatouiller. Le père le chatouille avec un brin d'herbe et l'enfant en fait de même. Et qu'est-ce qu'il va chatouiller ? Le petit rond sous le bras. Et à ce moment-là, le père l'interrompt, arrête, mais dans un moment de colère. Et il comprend à ce moment-là qu'il ne faudrait jamais plus et qu'il a touché là la marque même du silence dont personne ne devait jamais parler. Contraint au silence, le jeune homme, après, en est réduit à se documenter en cachette et il lit tout ce qu'il trouve sur cette période dont on ne lui dit rien à la maison. Avec le sentiment de faire une chose interdite, où le savoir sur cette période et l'histoire familiale a remplacé le savoir sur la sexualité. Un jour, adolescent, au sous-sol d'une librairie, il cherche et tombe sur un ouvrage sur la division Charlemagne. Ses jambes tremblent, il vacille comme s'il lisait de la pornographie. Il le lit d'une traite en bas et puis il s'enfuit. Mais il imagine une scène. C'est après la remise des nouveaux uniformes, après le serment bras levé, au Reich, au Führer, qu'on leur tatoue sous le bras en bleu le groupe sanguin, comme c'est de rigueur dans la Waffen-SS. Puis on leur distribue des armes. Quelques jours plus tard, ils seront sur le front de l'Est. Voilà l'histoire. Mais dans cette foule d'hommes bras levés, je n'arrive jamais à te reconnaître, voir ton visage, savoir si tu fais partie de ceux qui, juste avant le serment, ont assisté à la messe dite par le vieil aumônier délirant qui vous a accompagné jusque-là, si tu es parmi ceux qui ont endossé le nouvel uniforme sans tergiverser ou parmi ceux qui ont hésité, ceux que l'on a menés là de force, ceux à qui on a laissé le choix qu'entre la division Charlemagne ou le peloton d'exécution. Peu importe, puisque de toute façon, tu es là, quelle que soit la manière dont ça s'est réellement passé. Et alors, dans cet itinéraire, il va faire des rencontres. Et il y aura des points comme ça. Une apparition d'Anne-Lise Stern à la télévision va être pour lui très importante. Des photos, des articles de journaux. Mais toujours la clandestinité, le sentiment de transgresser un interdit. Et aussi, dans le même temps, le terrible désir de savoir et la peur de reconnaître son père en uniforme sur les photos ou dans les actualités. Pour Séonnet, la mort du père est à la fois un soulagement, mais aussi le deuil définitif d'un dialogue qu'il n'a jamais pu avoir avec lui. Elle marque le début d'un trajet qui requiert la créativité et la suppléance de la fiction pour combler les trous de l'histoire familiale et le silence qui l'a entouré. Cette quête, je ne peux pas vous la résumer, mais elle le mène sur des lieux importants de la jeunesse paternelle. Marseille, le lieu du procès, le père a eu un procès et de sa condamnation, il a fait un peu de tôle, qu'il a retrouvé dans les journaux d'époque, et le camp du Struthof. Quand je dis le mènera, ça ne veut pas dire qu'il ira toujours physiquement. Le mènera aussi par l'imagination. Il entrelace donc l'imagination et les documents. Et parfois, on peine à discerner les scènes de fiction des scènes réelles. Et c'est à dessein qu'il brouille les pistes. Comme mieux nous faire éprouver le sentiment de confusion qu'il a longtemps éprouvé, avant de pouvoir mettre bout à bout les bribes d'une histoire qui confine au mythe tant elle est lacunaire. Donc il retrace toutes les périodes, et à un moment, par exemple, il parle et il dit « Je sais que tu as été telle chose, je sais que tu as été à cet endroit », justement pour souligner l'étendue de ce qu'il ne sait pas et qu'on ne lui a jamais raconté. Donc, il a déjà écrit un premier livre en 1994 du vivant de son père, avec l'histoire cryptée. Le livre s'appelait « Que dirais-je aux enfants de la nuit ?» Il l'a montré à son père. Le père n'a pas réagi. Il dit « C'était tellement crypté, je me demande s'il s'est reconnu, mais de toute façon... » Mais lui se demande avec culpabilité si la maladie du père, ensuite, et sa mort ne sont pas liées à ce premier livre. De toute façon, coupable, Séonnet se vit tout le temps coupable. Coupable de désavouer sa filiation, mais aussi coupable d'avoir été complice de ce père, en ne le démasquant pas de son vivant et en participant officiellement au déni familial. Mais le hasard n'existant pas, pour lever ce déni, il se trouve des compagnons de route. Et un compagnon très important, il devient l'assistant et l'ami d'Armand Gatti, si ça vous dit quelque chose, homme de théâtre, poète, fils d'un anarchiste italien et d'une franciscaine, mais surtout résistant et déporté. Et Gatti va être pour lui ce substitut de figure paternelle qui va un étayage et lui permettre un étayage affiliatif pour substituer quelque chose à cette filiation qu'il est en train de dépecer, j'allais dire. Il doit s'ouvrir sur l'extérieur, lui aussi, comme pour exister et sortir de cet enfermement familial du silence. Le silence règne en maître là-bas parce qu'il n'y a pas que le père, le grand-père fasciste et antisémite a fait enrôler ses gendres et son fils. Et les femmes se sont tues. Donc, différent mais proche est le livre d'Alexandre Jardin, Des gens très bien, paru en 2010. Ça va vous étonner, Jardin est plutôt un auteur de plage, un auteur à succès. Je veux pas. Mais c'est un livre très intéressant. Jardin appartient à une famille connue, des notables, encore une fois. C'est pas comme Séonnet. La figure clé est le grand-père, Jean Jardin, dit le nain jaune, vous avez sûrement entendu parler de ce livre, directeur de cabinet de Laval, d'avril 42 à octobre 43. Retenez bien ces dates parce qu'elles sont très importantes. Mais le sujet du livre, c'est autant ce grand-père, donc Jean Jardin, que le propre père d'Alexandre, Pascal Jardin, auteur à succès, playboy, enfin tout ce que vous voulez, fils de Jean, mort jeune, sans avoir jamais questionné le mythe familial des gens très bien. Ce père, Alexandre, l'a aimé, l'a idolâtré, s'identifiant à lui dans sa vie et ses livres, lui rendant d'abord un hommage vibrant dans un livre qui s'appelle « Le Zubial », paru en 97. « Des gens très bien » est un livre de colère, où Alexandre Jardin exhale sa déception, son dégoût et sa honte devant la trahison du père et du grand-père. 13 ans ont passé depuis le Zubial, Jardin a maintenant l'âge de son père quand celui-ci est mort. Il est mort jeune, le père. Règlement de compte, mais aussi enquête rigoureuse, pour lever le déni et les mensonges dont il a été lui-même complice. Le secret de famille n'en est pas un, dans la mesure où on sait que Jean Jardin était, et il est allé se mettre ouvert en Suisse, d'ailleurs, à un moment, quand même, après la guerre. Il valait mieux. Mais l'atmosphère de déni qui a régné sur toute la société française a contribué à maintenir dans les oubliettes ceux qui crevaient les yeux. la responsabilité du grand-père dans la déportation des Juifs, en particulier la rafle du Veldiv. Je vous ai dit 42-43. C'est ça qui saute aux yeux d'Alexandre. Mêlant considérations sur la société française et souvenirs personnels, Jardin retrace l'itinéraire qui le mène du déni à la vérité. Comme c'est honnête, mais avec plus de colère, plus de culpabilité aussi, car il a pris une part active au mythe familial. Il a aimé cette famille, il s'y est senti bien, alors que Séoné se sentait pas bien dans le climat familial. Il en a été fier, l'atmosphère était agréable, les événements étaient enjolivés, mythifiés, on connaissait des gens célèbres, on s'amusait, c'était un plaisir. On célébrait la gloire du grand-père et de sa tribu, car cette famille avait toute la tribu, contrairement à l'isolement triste décrit par Séoné. Amis célèbres, argent, gloire et beauté, hein, vraiment. Et l'auteur va devoir se dégager de cela pour mener sa quête, quitter le monde enchanté de cette tribu, monde dont il va devoir affronter les mensonges. Le livre s'ouvre sur l'événement central, presque avant la mort, la rafle du Veldiv, et le fait que personne, pas même lui, n'a jamais rapproché les dates quand son grand-père était aux affaires. Et au contraire même, son père a écrit le Nain jaune pour célébrer son propre père. Donc Pascal a célébré Jean Jardin. Il aurait pu savoir, dit le fils. Mais comme tous les jardins, il était habitué, je cite, à congédier le réel. Comme le grand-père, antisémite de bon aloi, la grand-mère, un peu faux-folle, uniquement préoccupée de ses amants et de ses arbres fruitiers. Je vais vous lire deux minutes parce que c'est... On n'en revient pas. Je fais tout entrer dans deux minutes. Hein. C'est pas... Alors, la grand-mère, hein, charmante, elle a des amants, elle est belle, elle est adorable, il l'adore d'ailleurs. Un soir que je l'interrogeais sur son pire souvenir de la Seconde Guerre mondiale, elle me répondit d'une voix pâle. Un jour à Charmeil, leur petit château près de Vichy, hein, fallait bien être près du boulot, ton père avait commis avec Simon, ton père, donc son fils, quelque chose d'odieux, d'indicible, d'impardonnable. Ils avaient trouvé une scie et coupé les branches des arbres fruitiers. Le verger était en deuil. Horrifiée, je me suis mis à tousser. Ma grand-mère avait vécu aux premières loges du pouvoir collaborateur, trinquée avec les suppôts de la solution finale, côtoyée des haines bottées, frôlée des destinées étoilées de jaune, humée mille sorts en miettes, traverser un étripage mondialisé, et elle ne trouvait rien de plus impardonnable qu'une taille excessive des pruniers et des pommiers dans son verger. Barbie torturait à Lyon, elle se torturait à Charmeil, que son mari fut si peu disponible pour lui réciter des vers de Rainer Maria Rilke. A-t-on idée d'être aussi préoccupée par l'occupant ? Les crématoires rougeoyaient en Pologne, elle s'inquiétait au bord de l'Allier de la cuisson de ses rôtis aux pruneaux. Longtemps, j'ai raconté ce souvenir réellement odieux de ma grand-mère, pas au sens où elle l'entendait, sur le ton de la comédie. Autant en rire et en faire rire, me disais-je. Il me donnait envie de pleurer et de lui botter le train jusqu'à lui dévisser le coccyx, malgré l'amour total que je lui portais. Il résumait, dit-il, l'attitude exceptionnelle des jardins, à ne pas voir l'évidence. Oui, le jardin et le verger, en plus, je viens d'y penser. A toujours placé un prisme déformant entre le regard et la chose regardée. Et lorsqu'un soir, je poussais plus loin le questionnement sur ses impressions en face de Pierre Laval, elle me répondit à voix basse, de crainte d'être entendue par ses fils, avec une moue dégoûtée. Un plouc qui ne lisait rien, totalement insensible à Rilke. Un homme d'un ennui, mais d'un ennui dont tu n'as pas idée. Rien à voir avec Giraudoux, autre collabo, hein. Ah ça non. Quelque chose de mal dégrossi, de sous-préfectoral. Et les Allemands que tu recevais à Charmeil, alors des noms, le docteur Kahn, Ernst Aschenbach, Krook von Nida, qui était le représentant d'Hitler auprès de Pétain. Ah, beaucoup plus cultivé. Comme si la question était là. Comme si son mari ne participait pas en coulisses à l'un des pires régimes de l'histoire de France. Sa réponse m'a refroidi d'un coup. Bon, alors... Vous voyez ce qu'il doit faire, lui, défaire quelque chose par rapport au père, mais défaire aussi cette emprise. Il décrit très bien la tribu, les Giraudoux, les Chanel, les Morand, les Abélio, les Mitterrand et les Bousquet aussi, qui viennent visiter tout le monde. la compromission familiale et l'indulgence dont tous ont bénéficié ne peut se comprendre que sur fond du déni collectif qui a frappé la France de Vichy, déni levé par le discours de Chirac en 95. C'est à tous ces gens bien, les gens très bien, c'est tous ces gens, cette petite société charmante, savante, bien élevée, que s'adresse la colère de l'auteur. Floué et coupable, c'est ça la trahison. Floué par son père, qu'il adorait, qui, à l'instar de la famille, a toujours préféré, je cite, « corriger sans cesse la réalité pour la réviser, l'enluminer et la réchauffer ». Floué par le grand-père, qui a refusé, qui a raconté des histoires à sa sœur quand elle l'interroge. Ce charmeur, dit-il, qui connaissait l'art du mentir vrai. Coupable d'avoir profité de ce mensonge, et en particulier de l'argent généré par la publication du Nain jaune. Ça a été un livre à grand succès. Cette escroquerie géniale et sincère, dit-il. Coupable d'avoir longtemps refusé d'ouvrir les yeux, même quand certains de ses amis, dont Zach, figure centrale, tentaient de lui montrer l'irréfutable. Zach, c'est son ami juif, qui lui dit « Mais regarde, où était ton grand-père ? 42, 43, mais regarde bien, etc. » Mais Zach est mort avant de l'avoir vu, il est mort jeune, avant d'avoir vu le livre d'Alexandre, qui dit « Dieu, qu'il m'a fallu de courage pour désespérer. » Les étapes sont étrangement semblables à celles de Séonnet. Déni, aveuglement, peur, culpabilité, clandestinité, colère, identification, fascination pour le judaïsme aussi. Séonnet aussi. Les noms des chapitres tracent les étapes de ce cheminement, une espèce de journal de bord de la lucidité. Fini de rire, le réel est nous, professeur de cécité, de belles relations. Lui aussi, il rencontre des étayages sur la route. Ces deux livres et le film de Loudine traitent de la façon dont les fils vont se construire face à une figure paternelle aimée, mais qui les a trahis dans leur besoin de s'étayer sur elle. Le thème des identifications de substitution se retrouve dans les trois œuvres. Je le comprends comme la nécessité du détour par l'autre, un autre qui autorise, qui encourage, qui soutient, pendant ce retour pénible sur l'histoire familiale et sa réappropriation subjective comme un héritage après la détoxification. Pour Loudine, c'est sa femme, je l'ai dit. Qui saura l'aiguillonner, il ne le lâche pas hein, quand son courage l'abandonne. Il montre une scène où il essaye un peu de biaiser lui aussi. Pour Séonès, c'est la figure de Gatti, et puis les lectures qu'il va faire aussi. Cette figure qui s'inscrit en face du père, le résistant, etc. Et qui lui permettra de se décoller du père, mais de le retrouver aussi, une fois qu'il aura transformé l'héritage. Pour Jardin, c'est la rencontre avec une déportée, et c'est la figure de cet ami Zach, dont la lucidité bienveillante l'accompagne tout au long. Ils ont été privés d'étayage. Et donc, c'est très important pour cette quête. Au fond, j'appelle ça une sorte de fonction alpha paternelle qui n'a pu être assumée par le père de la réalité et par la mère qui lui est restée soumise ou qui a perpétué les mensonges. Quand on voit Erla, c'est le prototype de la femme de nazi. D'ailleurs, elle est belle comme une belle sportive, etc. Elle a fait plein d'enfants. Vous avez vu comme ils sont beaux. J'ai rencontré Loudine parce que j'ai présenté son film et on a passé des moments ensemble après. Je lui ai dit, vous étiez rudement beau, plus beau que nous. J'ai fait un peu d'humour, mais nous, on n'était pas blonds et beaux comme vous. Mais il a pu le comprendre. Hein. Il fallait bien qu'on rie un peu de temps en temps parce que c'était tellement tragique. Ces trois œuvres nous montrent le chemin ardu qui mène de la cécité à la révolte, puis à l'acceptation des origines. Et le chemin qui mène de la trahison à une confiance à nouveau dans le monde et à une capacité à s'y inscrire. La rupture et la fuite peuvent être tentantes, et on voit, surtout si la parole, qu'elle soit conflit ou partage, est totalement absente. Mais quand les héritages se transforment en poison virulent, quand les dettes des ascendants plombent le présent, la prise de conscience est assez inévitable. Et ce n'est pas un hasard si ce sont trois créateurs, parce que la création et le trauma sont évidemment, nous l'avons vu, intimement liés. C'est leur façon à eux, comme à beaucoup d'autres, d'essayer de détoxifier un héritage maudit, d'élaborer le trauma et le handicap de leur naissance pour accéder à leur subjectivation, renégocier le contrat narcissique qui les lie à leur famille. Pour tous les trois, écrire ou filmer, c'est imaginer pour se figurer l'infigurable, entendre les silences, séparer le fantasme de la réalité, révéler le récit muet qui a entouré leur enfance comme écrit à l'encre sympathique. Créer est aussi un devoir, celui de justifier leur naissance, j'ai plus qu'une page, celui de creuser plus avant pour mettre tout à jour les secrets, les compromissions honteuses, la douleur aussi. « Ma plume est une pelle », écrit Imre Kertész dans « Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas ». Là, leur plume, leur caméra, est aussi une pelle pour creuser, mettre à jour tout ce qu'ils ont à mettre à jour, mais ensuite enterrer dignement les morts, les pères qu'ils ont retrouvés. Pour retrouver un père, il faut qu'il fasse ce chemin. D'ailleurs, à la fin du film de Loudin, on le voit se diriger vers la stèle funéraire de son père, qui est sous un arbre assez discrète. Et on le voit se recueillir. Séonnet, dans la dernière page, c'est très intéressant, ils sont tous dits, écrits. Je vous lis la dernière page. Il commence par le poète autrichien Georg Trakl, qui l'avait marqué. Il avait essayé une traduction de ses derniers vers, et il y avait un mot, « Die ungeborenen Enkel ». Les descendants non engendrés, non nés. Les non nés. Alors, Trakl parlait peut-être d'autre chose. Lui dit les non nés, les innés. Voilà ce que j'aurais dû être s'il y avait eu justice. Souvent, j'ai l'impression de ne vivre que pour justifier ma naissance. Puisqu'elle ne peut pas s'autoriser d'une filiation, il faut bien qu'elle s'autorise d'elle-même. Que je ne peux aller que de commencement en commencement. Mais il dit aussi, à la fin, voilà, ce nom, il faut que je l'assume. Il faut que je dise oui à la réalité. Oui à mon nom, oui à ma venue dans cette filiation-là, oui à la marque et à la malédiction, puisque malédiction, il y a, mais sans aucune complaisance envers ce qui a eu lieu. Un oui qui ne te dédouane de rien, qui ne cherche en rien à s'immiscer dans les gestes d'un pardon, qui ne se substitue pas non plus à une demande de pardon adressée aux victimes. Un oui qui, justement, se tient dans cet espace d'une impossible demande de pardon, dans le silence que laisse en moi ce mot-là. Quant à Jardin, il termine par un rêve. Un rêve où il prend son père dans les bras. Il est le père de son père. Son père devient son fils. Et il lui dit que maintenant, il peut dormir en paix. Je vous remercie.
Merci Régine, et tu as tenu le temps, tu vois quand même, merci d'avoir comprimé ton récit et j'ai dit bien récit parce qu'on va peut-être beaucoup parler de récits dans notre discussion et c'est pas possible, j'ai un problème des minutes, mais ça, théoriquement ça devrait marcher, ça marche? Là derrière, ça va.
Merci, monsieur Darmon, parce que.
Tu l'as allumé, Alberto.
Je remercie monsieur Darmon, qui a été d'abord un merveilleux apaiseur de mes angoisses constantes.
Et qui a surtout permis que ça soit calé et que ça passe. Vraiment merci.
Certainement, autant de questions que vous, je vais juste poser une question, une chose qui m'a énormément intéressé. Il y a deux, ce que tu as dit à la fin, que le fils fait le père. Il l'inclut dans quelque chose, il restitue sa propre filiation en portant son père. Et l'autre chose qui m'a énormément frappé, c'est la question du récit qui se substitue à la vérité. On lui raconte des choses à l'un à l'autre, au premier cas. Le récit qui se substitue à la. Et qui confirme le pacte des négatifs. Et je me suis dit, c'est là
n'aimait pas cause beaucoup de choses par rapport à une espèce d'angélisme qu'on a par rapport au récit, que tout doit être parlé, que tout doit être dit. Ce sont des questions simples de notre pratique, mais on peut dire, n'oublions pas, et aujourd'hui, parce que c'est un des grands sujets que nous avons essayé d'aborder lors de ces colloques, et la langue, comme disait Ésope, sert à dire la vérité et aussi à dire les mensonges. Et ça, ça me paraît un élément à mettre au débat par rapport aux virtualités de la narration. En tout cas, c'était une narration et des faux témoins, et un faux témoignage. Et ça, je reviens à la question importante du témoignage et comment il cherche, cet homme du film, Ludin, cherche des témoins, des témoignages. C'est une chose essentielle pour contrecarrer peut-être tous ces faux témoignages et que ça devienne une attestation. Vous voyez la grande différence qu'introduit Ricoeur entre témoignage et attestation. Voilà. Merci.
Si tu veux bien répondre.
Je te remercie. Il y a beaucoup, comme tu avais dit au début, ce n'est pas des réponses qu'on va avoir, c'est encore poser un peu plus de questions. Je commencerai par le récit mensonger. Effectivement, il ne suffit pas de parler. Les récits imposteurs, et voilà pourquoi j'ai parlé de trahison aussi. C'est aussi par rapport à ses pères, mais c'est par rapport à ce qui a été transmis dans ses familles. Des récits mensongers. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vérité? On va voir avec Ludin qui cherche des preuves. Il y a le deuxième chapitre, s'appelle la caisse à secrets. Il se trouve qu'il y a une grande caisse en bois où il y a toutes sortes de choses, mais pas cachées. L'épée du père, des photos avec Hitler, des choses qui ont été gardées par la mère, comme des documents de famille importants, pas du tout cachés. Et des lettres. Et lui cherche, c'est-à-dire il y a aussi l'interprétation, parce qu'il soumet certaines lettres. Par exemple, il soumet un écrit, les écrits officiels, signés par son père, par exemple, de la déportation des Juifs de Slovaquie. Et il met ça sous le nez de ses sœurs en disant, bon ben voilà, là maintenant, qu'est-ce que vous dites? Elles disent, ils ne savaient pas. Il n'y a pas le mot déportation, mais regardez, ils vont vers l'Est. Mais ils ne savaient pas ce que c'était l'Est. On ne savait pas les camps. On pensait qu'ils allaient travailler, qu'on les mettait, qu'il y avait quand même, ils constituaient une opposition et qu'il fallait se débarrasser d'eux. Mais ils ne savaient pas. C'est-à-dire que les preuves, elles ont besoin aussi d'une lecture et elles peuvent être lues. Et on voit très bien, et d'ailleurs à certains moments, parce qu'il n'est jamais le procureur de ses frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez vu, moi je trouve que les sœurs sont éminemment sympathiques. Il n'y a pas de regard condamnant. Elles sont humaines. Elles sont là, aux prises, elles aussi. On a la deuxième, là, qui tire son châle tout le temps et qui est au bord des larmes. L'aînée, qui est très élégante, comme ça. Mais il ne les condamne pas. Mais on voit un moment, on le voit trépigner, comme le petit frère, avec un papier en disant, mais regarde, il y a la signature. C'est la déportation des Juifs. Oui, mais il ne savait pas. Donc, tous ces documents aussi, ils nous montrent quelle lecture, comment on peut encore, c'est ce que montre Hatzfeld dans Papa de sang, comment, où il y a eu les gachacha, vous savez, les tribunaux coutumiers, où là il y a eu des témoignages et où les gens ont été condamnés, comment on peut encore nier les documents. Donc comment l'interprétation et la tentation de les interpréter dans un sens ou dans un autre intervient. Donc on n'est jamais au bout même du récit et de ce récit qui cherche à s'écrire et à s'éclaircir au fur et à mesure. Et c'est ça qui est passionnant dans ces livres. Mais j'aurais pu parler d'un tas d'autres. J'ai pas pu parler de Garoust, mais j'avais des choses à vous dire. Et Marie Schex, j'ai pas parlé des femmes, c'est encore une autre histoire. Marie Schex et sa sœur Anne Sylvestre. Le père était collabo. Donc, vous voyez, il y en a plein. Non, je ne vais pas continuer tout le temps là-dessus, quand même.
Non, mais c'était très important. Oui. Excuse-moi. Ça sert à tout petit peu. Ça sert à tout petit peu. Non, je vous en prie. Toi, tu restes là. Sinon, tu t'es pris des micros.
Ah, c'est vrai.
Oui. Oui. Merci pour... cette intervention qui fait part de tes travaux depuis longtemps sur ces questions Et je voulais te poser, parce que ça me fait résonner, je pensais en t'écoutant à la difficulté qu'ont eu Serge et Beate Klarsfeld après-guerre pour la recherche des nazis. Je pensais à Eichmann aussi sur le déni, Coltal même à Jérusalem pendant le procès. Mais la question qui me hante depuis un certain temps, je voulais te la poser, c'est celle-ci. Comment, dans un pays comme la France, peut-on comprendre qu'actuellement, il y a de nouveau un discours, si ce n'est antisémite, qui a toujours peut-être existé, mais un déni complet, collectif, de ce qu'a été la collaboration, puisqu'on revient à ce qu'il s'appelle l'importance mise dans les médias et dans, semble-t-il, une certaine part de la société du Front National, qui a ce même discours. Et on voit peu apparaître dans nos milieux, comme d'ailleurs dans les milieux intellectuels, une révolte sur ce qui sur ce déni de la mémoire, en France particulièrement. Alors l'explication que je me faisais, c'est qu'il y a une forme d'encryptement collectif, et cette question de la culpabilité ou du refus de voir ce qui a été la réalité de la collaboration par le politique, après-guerre, tu as parlé de Mitterrand notamment, et d'autres, est-ce que cela n'aurait pas à voir avec ce déni collectif et avec l'inquiétude de la répétition, du retour d'une certaine forme de barbarie dans l'esprit.
Oh là là. C'est m'élever au rang d'analyse politique et c'est une question très importante, mais je vais un peu botter en touche et je vais te répondre quelque chose d'autre. Je pense d'abord que si Chirac a pu être celui qui prononçait, c'est pas parce qu'il a seulement une grandeur d'âme. J'avais peut-être une grandeur d'âme. C'est parce qu'il était, lui aussi, le premier à être enfant pendant la guerre. Donc, il avait 10 ans ou quelque chose comme ça après. Donc, il n'était compromis, même pas au niveau générationnel. Et je vais te donner un autre exemple. Moi, il y a un déni qui me touche beaucoup. C'est le déni de la participation, de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Là, on est toujours en retard d'un déni. Hein. On s'occupe de... Mais vous allez voir. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La droite et la gauche sont mêlées puisque c'était un gouvernement de cohabitation. Donc, la main droite rince la main gauche et la main gauche rince la main droite. Et on a soi-disant ouvert des archives qu'on connaissait tous. Et pour le moment, on est en train de travailler. Moi, je ne le connaîtrai pas. Il va falloir attendre que tous les gens qui étaient aux affaires militaires, aux affaires, soient morts pour qu'on puisse aller examiner, je ne dis pas que la France a fait le génocide, les responsabilités de, encore une fois, Mitterrand. Et pourtant, j'ai voté pour lui. Hein, c'est pas. Mais quand on voit Védrine encore affirmer, et on ne peut pas lever ce déni pour le moment. Donc, la latence de l'histoire, elle prend des années. Et il y a des retours, et il y a des boucles. C'est inquiétant, mais je ne me sens pas autorisée. Moi, je ne suis pas une analyste politique. Je peux ressentir des choses, je peux les écrire, mais je ne peux pas les analyser. C'est pour ça que je voulais parler du Rwanda, ou du fait qu'on est toujours en retard d'un ou plusieurs dénis. Il y avait Pierre.
Est-ce qu'il n'y a pas un déni aussi ?
Je voudrais témoigner. C'est plutôt un témoignage que je fais. Je suis issue d'une famille mixte. Ma mère était française, mon père luxembourgeois. Ils se sont rencontrés à Nancy et mon père avait vécu une période très compliquée avant d'être étudiant à Nancy. Il était luxembourgeois, donc il était allé au lycée, le seul enfant de la famille qui devait devenir universitaire. Et il a manifesté contre l'invasion nazie, s'est retrouvé dans un camp de concentration, mais comme il était intelligent, il était embarqué. C'est ce qui m'a été raconté. Je vous raconte ce qui m'a été raconté. Dans les lignes allemandes, au front allemand, c'est le plus grand voyage de sa vie, c'était ce voyage-là. 5 ans. Il est revenu au Luxembourg. Il a survécu alors que d'autres en mouraient. Alors il est revenu en ne se défendant pas parce qu'il a vraiment subi toutes sortes de choses. Il a passé par un camp de prisonniers anglais. Et ensuite, à Luxembourg, c'était donc un enrôlé de force. Et mon père n'a jamais parlé de cette période qu'il a vécue et qui était très intense. Il a repris ses études, donc il est devenu historien aussi, il est devenu prof d'histoire, sans parler de la sienne. Il a toujours dénié. Il était hautement traumatisé, il ne parlait jamais de cette période, alors que tous ses copains en parlaient, mais les uns avaient pu s'échapper avant ou partir, étaient reçus autrement. Il a vécu dans un village où j'ai grandi aussi, où on disait c'est le professeur, ce n'était plus Vic, le garçon de la, du village, mais c'était un étranger sans, sans l'être. Et c'est vraiment quelque chose de bizarre à Luxembourg, on rencontre plein de gens qui font de la recherche actuellement sur ce qui s'est passé pendant ces années. Alors les uns disent on était tous collaborateurs, les autres disent on était tous résistants, les troisièmes disent on était tous spectateurs, et les quatrièmes disaient on est victime. S'en sortir dans ce domaine très compliqué, je suis toujours à la recherche de réponses et je n'en retrouve que très peu. Merci de m'écouter. Merci.
Oui, moi aussi je voulais témoigner de quelque chose d'assez curieux, comment je suis arrivée au livre de Jardin, que j'ai lu il y a 3-4 ans, effectivement, quand il est sorti. Et c'était dans, à travers une patiente à moi, qui était en analyse, et qui me raconte à ce moment-là, j'ai lu le livre de Jardin, et j'ai pleuré pendant 2 jours, sans savoir, ni d'Ève ni d'Adam, d'où se venaient ces pleurs. Hein. Donc finalement, quand même, elle était en analyse, donc elle a bien compris qu'il avait quand même une histoire familiale derrière. Et sa première réaction a été « Mais je ne veux pas savoir, en tout cas pour l'instant. » Donc on voit bien comment il y a une transmission qui est difficile à reprendre. Et donc tu as parlé de la latence, et effectivement là, on sent que c'est les parents qui doivent être morts pour qu'elle puisse chercher. Bon, voilà, c'était ça.
Et,
attends, il y a Pierre Bengosi et Madame. Allez-y. Tout à l'heure, on a été sur les dénis. Moi, il me semble qu'en France, il y a un déni qui est enfin, c'est assourdissant. C'est le déni de colonialiste, quoi. C'est vraiment effrayant. Enfin, on est en train de se faire reprendre sur la figure d'une manière énorme.
Ça y est.
Je voulais aussi parler d'un film moi, qui m'a beaucoup marqué récemment, Le Fils de Saul, où la question, c'est inversé par rapport à ce que vous nous avez présenté, mais la question, c'est vraiment déployer tous les efforts possibles pour que l'enfant soit enterré en terre et ne parte pas en fumée. Quoi.
Je vous remercie, mais ça sort un petit peu de... C'est l'autre côté.
Oui. Bon, merci. Merci, Régine, effectivement, de partager avec nous ce qui est le cheminement d'un travail que je connais engagé depuis longtemps autour de ces questions du témoignage et de la transmission du récit et de la mémoire. Effectivement, on est au centre du thème qui nous concerne aujourd'hui. Alors, tu as évoqué, à juste titre, l'importance des mécanismes de défense dans la réorganisation du discours. Et les mécanismes de défense, au niveau à la fois individuel, à l'intérieur des membres de la famille, tels qu'ils peuvent être diffractés entre les différents membres de la famille. C'est intéressant de voir cette diffraction entre les frères et les sœurs, selon la manière dont chacun intègre un des aspects de mécanisme de défense. Donc finalement, on ne peut pas dire qu'il y a le bon frère et la mauvaise sœur, mais que c'est l'ensemble qui est à penser groupalement de ce point de vue-là. Du point de vue groupal, tu as évoqué, alors là, au niveau de la communauté allemande, à quel point il était important qu'il y ait un retournement à un moment par rapport au père Hitler qui devenait le mauvais père. Alors, je voudrais juste témoigner d'une certaine perplexité que j'ai pu vivre. Il se trouve que, en tant que représentant président de la section européenne de thérapie familiale psychanalytique, je vais très régulièrement en Allemagne et à Berlin plusieurs fois par an. Et il il se trouve que je me suis fait un ami, un jeune Allemand. Un peu comme Yankelevitch a eu son jeune Allemand avec lequel il peut avoir, au-delà des générations, un certain type de dialogue. Et ce jeune Allemand me fait visiter Berlin. Et il me fait visiter Berlin. Vraiment, c'est un gars adorable, très vraiment. Et il me fait visiter dans Berlin, sans cesse, les histoires de Vaupeau, le mur de Berlin. Et alors, moi, j'étais très content. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai éprouvé une sorte de malaise. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que l'histoire de la Shoah était tout d'un coup gommée comme ça, mais pas du tout par du mensonge, simplement par une sorte de narrativité en palimpseste qui se rajoute dessus et qui fait que cette histoire, tout d'un coup, ne devient plus son histoire, ne devient plus l'histoire de la Shoah, mais devient l'histoire victimaire du communisme. Et je trouve que là, c'est très important de voir comment les retournements de la honte se font souvent comme ça, sous ces modes de retournement victimaire. Et là, c'est très subtil, parce qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de déni, il y a cette espèce comme ça de substitution de l'un à l'autre, d'une histoire qui va cacher en recouvrant l'autre.
Ok, très bien. On va demander à Régine de répondre et nous allons clore notre débat. Je m'excuse pour ceux qui voulaient parler, mais je m'excuse aussi pour ceux qui attendent d'aller de la prochaine intervention qui va nous parler d'une autre violence. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout fini.
C'est pas fini. Je vais pas répondre à chaque chose puisque chaque chose est une évocation importante. Je reprendrai un de tes mots, écriture en palimpseste. Ça me fait penser au travail de Boltanski, qui l'a fait aussi, je sais pas si tu l'as vu, à Berlin, comme il l'a fait au musée juif ici, c'est-à-dire comment des couches d'histoire viennent recouvrir, et ça c'est vrai pour toutes les histoires, et comment réécrire, etc., c'est aussi tenir compte, lire, comprendre et soulever chacun des voiles, chacun de ces niveaux d'écriture. Et je trouve que ce qui est très intéressant, quand les créateurs peuvent le faire, mais nous aussi on le fait d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est le roman? Je répondrai aussi à monsieur, je pense que le roman familial c'est pas figé, nous notre travail c'est justement aider, enfin être témoin des versions successives de l'histoire familiale, même pas dramatique, comme que le patient va se donner et réécrire sans cesse. Et quand tu dis Berlin, moi j'aurais été gênée par exemple, tu vois, à l'inverse, si c'était senti obligé de t'emmener que sur les lieux de commémoration juifs. Moi, je me serais senti mal qu'ils te fassent l'itinéraire la Shoah en 15 étapes. J'aurais pas du tout... Et toi, tu dis que tu t'es senti... Mais lui, c'est là où il est, et tu as eu l'impression qu'à ce moment-là, la Shoah était gommée, alors que d'ailleurs, à Berlin, je trouve qu'elle n'est pas gommée. Moi, je dirais que Berlin est une ville... Moi, j'appréhendais beaucoup, et je vous dirais juste, d'aller en Allemagne. Mon père avait refusé d'y aller. J'y suis allée à Berlin, j'y suis allée en tremblant. Et je me suis sentie bien. Donc je me suis sentie coupable de me sentir bien, évidemment. Je trahissais mon père. En plus, j'ai mangé le meilleur pain et le meilleur gâteau au fromage. Alors, le Käsekuchen, alors ça, vraiment, c'était affreux. Je sais pourquoi je me suis sentie bien. Parce que c'est une ville pleine de cicatrices. Et pour moi, les cicatrices du mur, du communisme, de la Shoah, de Hitler, etc., elles étaient là. Je me suis sentie beaucoup mieux, et c'est pas une ville très belle, qu'à Vienne, où tout était ausgeputzt, bien nettoyé, superbe, et où là, j'avais l'impression que chaque chose était là en dessous, mais qu'on n'en parlait pas. Voilà.
Merci infiniment, Régine. Et vraiment, on te doit beaucoup, et on espère d'autres rendez-vous. Non, parce que tu vas jamais répéter la même chose. Puis ça sera d'autres choses parce que tu nous fais penser. Et ça, c'est très important. 15 minutes de pause, ça va?